Comment trouver des clients? Comment bien gérer sa facturation? Ces réponses et bien plus sont dans le podcast des indépendants sur BFM Business. Et j'oubliais, quelle banque choisir quand on devient freelance, auto-entrepreneur ou indépendant? Une vraie banque digitale avec des conseillers experts basés en France. Une banque avec des tarifs compétitifs qui propose toutes les solutions pour développer votre activité. Une banque avec 90% de clients satisfaits. C'est Hello Bank Pro. Hello Bank Pro, partenaire du podcast des indépendants. À tout de suite.
Bonsoir, ça bouge dans le commerce, ça se bouscule, hein, pas une semaine, pas une journée sans annonce. Tenez, cette semaine, on vous parlait de l'arrivée de l'assistant d'Amazon en France, on évoquait également le rapprochement, l'alliance entre Carrefour et Google. Oui, il n'y a plus de frontières dans le commerce, hein, physique, digital, bon, tout se mêle, hein. Pas de frontières entre pays tout court également, le e-commerce transfrontalier, oui. Attention quand même, hein, c'est pas forcément simple, hein, quand on parle des droits de douane, quand on parle de la politique de retour, quand on parle des prix également, oui, c'est pas facile pour une boîte qui veut se lancer dans le e-commerce transfrontalier, d'autant plus que Amazon et Alibaba se sont quasiment déjà partagé le monde. Alors, e-commerce, faut-il des frontières? Voici les décodeurs de l'écho.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, rendez-vous ce soir avec les décodeurs de l'écho. Rendez-vous qui s'intègre dans une série de rendez-vous initiés, organisés par la Poste Solutions Business avec BFM Business et l'Express autour du e-commerce à l'international. Simplifier les rouages du e-commerce international. Quelles sont les clés de la réussite? On va vous expliquer, d'autant plus que des entreprises ce soir vont venir témoigner de ce qu'elles ont rencontré, justement, de ce qu'elles ont mis en place, et puis quels conseils pourraient-elles vous donner. Tiens, tenez, l'une de ces entreprises, c'est Met.com, avec sa directrice générale pour la France, Jessica Del Piro. Oui, pour tous les amoureux de la mode, c'est un site de mobilier design à bas prix, hein, créé à Londres il y a 8 ans par deux Français, avec des canapés, des tables basses qui sont renouvelées quasiment chaque semaine. Ils sont présents dans 7-8 pays. On continue d'en parler aussi avec Marc Pontet. Marc Pontet, directeur général d'Ascendia. Ascendia, c'est une co-entreprise de La Poste et de Swiss Post. Autre patron à la tête de sa boîte, c'est Laurent Milchior, co-gérant d'Etam. Vous connaissez évidemment Etam. C'est de la mode, de la lingerie, des maillots de bain, du prêt-à-porter, groupe familial au 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires, 15 000 salariés, presque 4 000 boutiques, y compris en Chine. Et puis Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM Business, l'un des fidèles aussi des décodeurs de l'écho. Tiens, je me tourne vers l'homme des chiffres, hein, évidemment, Emmanuel, que vous êtes. Hein, le e-commerce en France, il se porte bien. On en parle tout le temps. On peut faire plus. Le potentiel, il est là. Peut-être qu'il risque de plafonner à un moment. D'où l'intérêt peut-être d'aller voir à l'international.
Alors, c'est vrai qu'on n'y est sans doute pas encore. Oui, aujourd'hui, c'est vrai qu'on atteint des sommes qui sont quand même assez substantielles. Hein. Le chiffre d'affaires du e-commerce, l'année dernière, c'est plus de 80 milliards d'euros. Pour vous donner un ordre d'idée, les ventes de produits manufacturés enregistrés chaque mois dans la distribution, c'est 20 milliards d'euros. Donc on est déjà à peu près à 4 mois finalement de vente des magasins. Donc c'est pas négligeable. Et encore une fois, comparé à une consommation qui progresse de 1,5 à 3% par an, grosso modo, là sur le e-commerce, vous êtes sur des progressions qui sont plutôt de l'ordre de 14-15% par an, ce qui est considérable, avec des sites de plus en plus nombreux et des Français qui y vont de plus en plus souvent, puisque vous avez à peu près 33 achats en moyenne par habitant et par an, contre 28 l'année précédente. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que l'internationalisation, c'est plus récent, mais c'est encore plus dynamique. Hein, c'est-à-dire qu'on est sur des taux de croissance des ventes à l'étranger qui sont là non plus de 14-15%, mais de 24-25%.
Quasiment le double.
Ah, ouais, quasiment le double. Très intéressant. Il y a une vraie tendance à l'internationalisation. Et d'ailleurs, vous avez à peu près 25% des acheteurs sur ces sites internet qui achètent globalement à l'étranger. Alors, ça dépend des pays. Ouais. Alors, ça dépend des pays, mais il y a des pays comme l'Espagne, par exemple, où il y a pas beaucoup de, il y a moins de sites qu'ailleurs. Vous avez 58% des Espagnols qui achètent sur des sites internet étrangers.
Dingue. On va rappeler les chiffres, hein. 80 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an en France pour le e-commerce, avec une progression de 14% en France. Et puis, quasiment le double hein, quand on va à l'international. Oui, Marc Pontet, directeur général d'Ascendia, on l'a vu avec Emmanuel Le Chypre, hein, la croissance du e-commerce, elle est formidable. Le commerce transfrontalier également aussi, il est justifié par quoi?
C'est vrai que, comme vous l'avez dit, 25% de croissance par an, c'est à peu près la tendance qu'on voit sur une décennie. Ça veut dire que en 10 ans, la taille du marché va être multipliée par 10. Donc c'est vraiment une opportunité qui est considérable. Ouais. Alors, pourquoi finalement les consommateurs décident aujourd'hui d'aller acheter sur des sites étrangers? Finalement, après avoir acheté sur des sites nationaux, ils se sont dit qu'ils avaient un nombre d'objets illimité. Et donc, le e-commerce sans frontières, c'est vraiment le e-commerce pour tous, partout, à tout moment.
On trouve tout.
On trouve tout. Et donc, c'est un driver qui est très très fort parce que cette tendance, c'est une tendance de fond qui est durable. Et les consommateurs aujourd'hui, ils vont acheter sur des sites étrangers pour deux grandes raisons. La première, des produits qui les font rêver. Mmh. Des produits qui sont pas nécessairement disponibles dans des boutiques physiques en France ou sur des sites français, ils les trouvent à l'étranger. Donc ça, c'est l'une des grandes motivations. Et puis, il y a une autre motivation, c'est une motivation beaucoup plus tournée vers le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on trouve des objets de la vie quotidienne à des prix défiant toute concurrence, c'est-à-dire 3 fois, 5 fois, 10 fois moins cher que ce qu'on aurait en France. Et donc, ça, c'est une autre partie du développement du e-commerce. C'est du e-commerce qui est fait notamment avec des sites asiatiques. Et Emmanuel citait le cas de l'Espagne. C'est un cas très intéressant parce que les Espagnols sont effectivement les premiers consommateurs de e-commerce à l'étranger. Pourquoi ? Il y a à la fois le nombre de sites sur le territoire national, vous l'avez dit, mais il y a aussi le fait que l'Espagne a connu une crise économique extrêmement dure, qui a duré plusieurs années. Et donc, l'un des réflexes des consommateurs, c'était d'acheter des objets de la vie quotidienne, des ampoules, des cartouches d'encre, à des prix défiant toute concurrence.
On achète des ampoules en Asie, c'est ça, en Chine ?
Absolument.
Ouais. C'est moins cher. Bon, alors oui, reste à savoir pourquoi c'est moins cher. Peut-être qu'en effet, la taxation n'est pas ne sont pas les mêmes. On y reviendra. Tiens, justement, témoignage des chefs d'entreprise, justement, parce que vous avez des sites, vous vendez à l'étranger. Tiens, on commence avec vous, Jessica Delpirou, donc, à la tête de Men.com en France. Qu'est-ce qu'on peut trouver sur le site?
Alors, nous, en fait, je fais un lien avec ce qui vient d'être dit, puisque, effectivement, nos clients achètent chez Made parce qu'ils trouvent des produits qui sont désirables et qu'ils ne trouveraient pas forcément ailleurs. Donc nous, on est un site international. En fait, on est une marque surtout. Et puis, à des prix abordables. Donc, puisque l'Internet nous permet d'aller faire directement de la vente aux clients et de travailler directement également avec nos fournisseurs.
Alors, où sont vos clients, par exemple?
Donc aujourd'hui, on est présent dans notre marque. Donc nous, on se nomme comme la première marque digitale de design en Europe. Donc on est présent, on est essentiellement sur le marché européen, présent dans 7 pays, et on est une marque de design, donc on propose effectivement des produits très uniques, faits avec des designers, et nos clients sont des millennials, donc ce sont des clients vont pouvoir se trouver plutôt urbains, un peu dans toutes les villes en Europe, donc en France, en Angleterre, en Allemagne, qui sont principalement nos 3 premiers marchés.
On achète de plus en plus de meubles sur Internet, on achète des canapés, on achète des fauteuils.
On achète de plus en plus, la confiance en fait des consommateurs pour aller acheter des produits plus importants sur Internet est en train d'augmenter. Et on estime que d'ici 3-4 ans, on va passer à environ 30% des consommateurs qui achètent leurs décorations et leurs meubles en ligne. Donc on est vraiment au démarrage d'une forte croissance et on est à ce qu'on appelle un point d'inflexion sur ce secteur. Comme ça a été le cas sur d'autres secteurs, les produits brun, blanc, la mode, on en parlera. Donc effectivement, on est au début de la courbe de croissance.
Alors la mode, voici Laurent Milquier, donc à la tête de Etam. Etam, le site Etam, vous ne vendez pas qu'en France, vous vendez quasiment dans le monde entier, on peut dire ça ou pas ?
Une cinquantaine de pays.
Ouais.
Et pourquoi une cinquantaine de pays? Bon, on a démarré très tôt le e-commerce.
Ah oui, je le disais, c'est vous qui avez lancé vous-même le 2000, e-commerce chez Etam en 2001. Voilà,
en 2001,
ça fait 15 ans.
Ouais, de, 2001, il y avait trois acteurs et dont un qui a arrêté avant de reprendre. On se disait qu'on pouvait pas vendre de mode en ligne. Aujourd'hui, on s'est dit à un moment donné que c'était compliqué de vendre à l'international. Mais comme Jessica le disait, je pense que ce qui est important, c'est la marque. C'est-à-dire que pour se développer à l'international, le ratio moyen pour se développer et performance, il est beaucoup lié à la puissance de la marque. Des marques comme Nike, etc., ont déjà une notoriété un peu partout avant d'ouvrir un site de e-commerce, donc du coup ça accélère leur développement. Aujourd'hui on est présent dans 50 pays également avec nos magasins, que ce soit en propre ou en franchise sur certains territoires, et donc du coup on a adapté notre site à tous ces marchés. Mais je pense que pour nous qui sommes retailers avant tout, parce que nous on a démarré par le magasin, Made a démarré par le site avec un showroom, nous on a démarré par le magasin et on est venu au e-commerce comme tous les retailers, avec une 10% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui qui est réalisé sur nos sites. L'important, c'est d'offrir un écosystème complet dans tous les pays. En fait, c'est-à-dire que quand vous êtes national, chez vous, vous avez tout un système omnicanal avec des tablettes en magasin qui permettent de proposer les produits en rupture de stock, un assortiment plus large, un certain nombre de fonctionnalités, et un site qui a des taux de transformation qui sont entre 1 et 2% dans l'industrie de la mode. Donc 98 à 99% du trafic finalement qui est un média en fait, donc qui profite du web comme un média. Aussi bien que le média papier, que le magasin, que...
Donc ça interagit bien entre le physique et le digital.
Si vous n'avez pas de e-commerce à l'étranger, ouais, finalement, vous avez un écosystème qui est incomplet.
Oui, c'est
donc
ça.
Les millennials, qui sont une grosse partie de nos consommateurs, et on le voit dans l'univers du luxe, les marques qui ont su communiquer avec les millennials sont celles qui marchent le mieux aujourd'hui, et c'est la même chose pour toutes les marques, je pense. Et donc quand vous n'avez pas un site de e-commerce, finalement votre écosystème digital, il est relativement faible, vous faites un peu de réseaux sociaux, mais vous n'avez pas l'attraction que vous avez avec un site de e-commerce, avec des fiches renseignées, etc., qui drive du trafic en magasin. Donc du coup, vous êtes sous-performant, et comme on est toujours moins performant à l'étranger qu'on l'est chez soi, ou la plupart du temps, parce que la notoriété est pas la même, etc., sans e-commerce, quelque part, vous êtes pas performant dans vos points de vente. Donc en fait, il y a une espèce de cercle vertueux qui doit s'installer avec le e-commerce et la communication sur les réseaux sociaux.
Alors comment on fait quand par exemple on n'est pas présent, quand il y a la marque Etam n'est pas présente dans un pays? Alors, vous travaillez comment? Alors
ça permet de rentrer dans des pays, de tester des marchés aussi. Par exemple, si on prend l'Allemagne, oui, on est peu friand globalement des marketplaces, mais on a testé le marché anglais et le marché allemand avec Asos sur la marque Undies pour le marché allemand. Donc Undies, c'est notre marque 15-25 ans, qui a une dizaine d'années, enfin qui a 10 ans exactement, et la marque Etam, on a testé l'Allemagne avec Zalando. Alors sachant qu'en Europe aujourd'hui on peut pas limiter les territoires, par contre dans le deal c'est de dire finalement, si on fait trop de chiffre d'affaires en France, puisqu'on veut consolider nos consommateurs sur nos propres sites, sur le marché où on est leader, on aurait arrêté de travailler avec eux. La réalité est qu'on a vendu Undies principalement en Angleterre sur Asos, et principalement en Allemagne avec Zalando. Ça permet de tester le marché. Sur Zalando, ça marche très bien. Et donc derrière, on a traduit notre site. On a travaillé avec une société tierce qui nous permet de faire un système de livraison, de paiement, en adaptant aux modes locaux. Donc livraison cash on delivery en Allemagne, une adresse locale de retour, puisque...
il faut toujours du local, une adresse locale, sinon ça fait peur, non?
Disons qu'il faut... Il faut simuler au maximum un écosystème local. Donc après, on parle de cross-border. La réalité, il y a du cross-border qui est du vrai cross-border, où vous dites, moi je vous livre en 15 jours et mon site il est en anglais. Et là, globalement, c'est ce que proposent des gens comme Alibaba, comme en marketplace. C'est un moyen de tester le marché, mais c'est relativement peu performant.
Ouais, bien sûr.
Nous, on le voit en Russie aujourd'hui. On vient de reprendre un franchisé en Russie en début d'année. Donc là, on démarre en cross-border et on le temps de mettre en place l'entrepôt local. Dans les semaines qui viennent, on sera local. Mais le fait de passer de 15 jours à 24 heures de livraison,
un siècle,
ça change absolument tout. Et ça permet en magasin de commander la pièce manquante en stock sur le stock digital, et donc d'offrir une expérience 360 de meilleure qualité.
Juste, je vais poser une question toute bête. Dans quelle langue on présente son site quand on veut vendre à l'étranger, comme vous avez fait, Jessica?
Alors, nos sites sont localisés, parce qu'aujourd'hui on est présent dans 7 pays, donc on peut se permettre, on n'a pas une présence dans une cinquantaine de pays, donc peut-être qu'on ferait d'autres choix. Il nous a semblé, dans les pays dans lesquels on est présent, qu'il était important de présenter notre site et nos produits avec le wording local, parce que effectivement, quand on présente des produits design, on veut comprendre comprendre dans sa langue locale. Donc effectivement, il faut complètement, on traduit
sur tous nos pays succursales, on traduit. Et après, on a un site en anglais, on a un site en chinois, on a un site en, donc en polonais, en flamand pour la Belgique, en allemand, en espagnol. Là, on a quelques corners en Italie, on va le traduire en italien. Mais je pense que c'est un peu la question qu'on se pose toujours en disant pourquoi il n'y a pas de quelque part de GAFA française, enfin européenne. Et la réalité, c'est aux États-Unis, vous avez une langue, vous avez une façon de consommer. Ouais. Et finalement, les consommateurs américains sur le web, ils utilisent le web de la même manière. Et on le voit même les Chinois qui sont 1,3 milliard. Ils utilisent tous le web de la même manière. Donc le web unifie les comportements. Les comportements en mode sont un petit peu différents parce que sur la côte est et la côte ouest, dans le Midwest, on a clairement des comportements américains qui sont différents. Mais dans la façon d'utiliser le web sur son mobile ou sur son desktop, on a clairement son ordinateur, on a clairement une unification. Alors qu'en Europe, en fait, on veut une Europe unie pour faire des GAFA, mais la réalité, c'est que une Allemande, enfin je parle une parce que nos clients sont la plupart du temps des clientes, une Allemande consomme le web et les réseaux sociaux et le web et les informations. Et ses emails et les messengers et les bots, etc., tout à fait différemment d'une espagnole, d'une italienne, d'une française, d'une anglaise. Donc du coup, on peut pas faire comme aux États-Unis, on a une plateforme et puis après globalement on investit en médias localement.
Les médias sont différents d'ailleurs, les moyens de paiement sont différents, les partenaires sont différents.
Marc Pontet à Sendia, c'est quoi les accueils quand on va à l'international? Justement, on écoute là le témoignage de Laurent Milchior et Tam, de Jessica Del Piero pour Met.com. Avoir un site de e-commerce, bon, en France, c'est normal, hein, faire tourner son site de e-commerce en France, on sait faire, voilà, j'exagère évidemment, mais évidemment, bon, un certain nombre d'écueils peuvent surgir, hein. Ça peut être le parcours du combattant ou pas?
C'est le parcours du combattant, parce que d'abord, il faut que l'entreprise définisse une stratégie. Ouais. Ceux qui pensent qu'on peut aller vendre à l'international juste en se divertissant, ça, c'est une erreur complète. Donc, il faut vraiment une stratégie, il faut y mettre des moyens. Et ensuite, il y a de la technique. Donc, la technique, c'est effectivement présenter sa gamme de produits à la façon dont les consommateurs locaux l'attendent. Présenter le pricing de la même manière. Par exemple, on sait très bien qu'en Asie, si on présente un produit avec un prix, quel que soit le niveau du prix, il ne sera pas acheté. Il faut que ce prix soit barré.
Ah.
Et il faut qu'il y ait un discount. Ah. Sinon, le consommateur local a l'impression qu'il s'est fait arnaquer.
D'accord.
Voilà. Donc ça, c'est des détails.
Ouais, il faut le savoir.
C'est important.
Ouais. Parce que et puis, bien connaître les mœurs, quoi.
Une fois que vous avez convaincu le consommateur, il y a une autre partie qui est compliquée, c'est toute la logistique de la transaction.
Ouais.
Parce qu'en fait, à partir du moment où le consommateur dit j'achète, il faut être sûr d'abord qu'on lui fait payer le bon prix une fois pour toutes. Le prix de la marchandise, le transport et les taxes. Très souvent encore, on voit des consommateurs qui sont livrés, on leur dit, au fait, on a oublié, on a une petite surprise, il y a 20% de TVA à rajouter à ce que vous avez déjà payé. Donc ça, c'est une expérience client qui est catastrophique. Donc il faut calculer le prix total, il faut gérer les relations avec les douanes, il faut gérer le risque de change, le risque de fraude, parce que le risque de fraude est plus important sur une transaction internationale que sur une transaction nationale.
Et ça, par exemple, chez Ascendia, par exemple, cette filiale de La Poste, ça, vous le faites, par exemple?
Alors ça, on le fait, effectivement. Nous, on a deux grandes activités. On a une activité de logisticien, c'est-à-dire qu'on propose des solutions de distribution des petites marchandises et de courrier pour les entreprises qui exportent. Et puis, on a une activité basée sur une plateforme technologique avec une société qui est localisée en Irlande. Et cette société, elle propose justement aux grandes marques de dire... À partir du moment où le consommateur a décidé d'acheter le produit, nous, on prend la responsabilité de gérer la totalité de la transaction. Et on gère tous ces petits soucis. On gère la partie distribution, physique, livraison.
Le prix aussi.
On gère les retours.
Douane, ouais.
Parce que les retours, ça a l'air simple. C'est tout sauf simple. C'est à la fois, il faut retourner la marchandise.
Ouais.
Il faut rembourser le consommateur.
Ah bah ouais.
Et il faut aller récupérer les taxes qu'on a versées à un certain nombre d'autorités douanières.
Ouais.
Voilà, donc, finalement, la répartition des rôles, c'est on dit à la marque de choisir sa stratégie de définir son marketing, aux prestataires de services, donc en l'occurrence eShop World, de gérer toute la logistique de la transaction internationale.
Les mœurs, les habitudes des différents pays, on vient d'entendre Marc Pontet, je prends juste un exemple. Quand on vend des canapés chez Med.com, comme vous, Jessica Del Piero, Un canapé, c'est un canapé, non?
Alors, nous, on a des spécificités très claires. C'est que on prend le meilleur des deux mondes, encore une fois. Donc, ça veut dire que d'un côté, on va avoir quand même notre gamme qui va être la même d'un pays à l'autre.
Oui.
Néanmoins, on est capable de remonter à notre équipe de designers des spécificités locales qu'ils vont intégrer dans la gamme, qui, elle, va à nouveau être proposée à tout le monde. Je vous donne un exemple très précis. Les Français, ils aiment les canapés avec plutôt des canapés un peu soft, un peu voilà, où on peut s'affaler,
ah ben
où on peut faire la sieste.
Manu devant voilà. Foot. Voilà.
Un canapé où on peut faire la sieste, ça, c'est le canapé du Français. Là où les Anglais, ils aiment des assises très dures, voilà. Donc ça, par exemple,
l'héritage,
c'est une spécificité.
Chesterfield, vous voyez.
Et effectivement, ou le cuir, hein, qui est très anglais voilà. Aussi, là où les Français sont plutôt sur le lin. Bon, ça, c'est des spécificités qu'on arrive à prendre en compte dans nos gammes de produits. Néanmoins, je voudrais revenir sur le fait que quand on est une marque intégrée comme la nôtre, notre objectif reste malgré tout d'essayer d'adresser le millénial, ce qu'il soit à Berlin, à Paris ou à Madrid. Donc, et malgré tout, il y a quand même une uniformisation des goûts. Entre ces pays-là. Donc à la fois un consommateur qui effectivement va avoir des spécificités locales, qui malgré tout a une uniformisation des goûts, et puis effectivement ensuite toute une infrastructure qui elle est éminemment locale. Voilà, on parle souvent de la banque et des paiements.
Ah bah
il
voilà.
Y a rien de plus local.
Ah, il y a rien de plus local. Laurent Milchior chez Etam, qu'on parle de paiement, de politique de retour, chaque pays à sa façon de faire. Donnez-nous quelques exemples, par exemple.
Alors, je pense qu'il y a toute la partie, on va dire, back office,
ouais.
Donc qui sont les paiements, etc., livraison. Mais il y a la partie offre. C'est vrai qu'on parle souvent le e-commerce. Aujourd'hui, on parle de transformation du commerce et de la transformation digitale, et on a tendance à oublier de parler de la marque et du produit. Et c'est vrai que une marque, elle est forte parce que elle impose un certain style entre guillemets à sa marque. Donc on peut pas juste pousser le produit qui marche dans le pays parce qu'on dénature son style. Donc il faut assurer quelque part, la difficulté c'est d'assurer sa plateforme de marque tout en poussant les produits qui sont performants dans le pays. Donc c'est trouver ce bon mix entre un mec qui va probablement pousser certains produits iconiques de son catalogue, mais les canapés durs en France et mous durs en Angleterre et mous un mauvais commerçant sur le meuble.
Rester sur la linge.
Et donc nous c'est un peu la même chose. Donc on a toutes ces problématiques de paiement, mais on a développé un outil aussi MindOut qui permet d'analyser non pas uniquement les best-sellers, mais d'analyser en fait la façon dont les produits sont mis dans le panier. Et on avec un peu de data ou beaucoup de data, on arrive à voir en fait que un produit a une certaine importance en fonction de l'ordre dans laquelle il est mis dans le panier. Donc en fait un best-seller, il peut être mis tout le temps en deuxième, mais c'est un produit qui est non engageant. Un best-seller qui est mis en premier, c'est un extrêmement bon produit parce qu'il est engageant et c'est un best-seller. Mais il y a des produits moyens, mais qui sont tout le temps mis en premier. Et donc ces produits-là, quand on les affiche, en fait, ils créent de l'engagement pour le consommateur. Et donc du coup, avec cette technique, on adapte notre merchandising pour chacun des pays entre le best, le produit engageant et le produit qui représente la marque. Et donc il y a ce travail assez fin à faire.
Ça c'est le produit, ça.
Ça c'est le produit, mais in fine, c'est quand même la chose.
Oui,
il faut jamais l'oublier. Ensuite, en termes de politique d'essayage, etc. Si on prend la Russie, la Russie aujourd'hui en vente à distance, on ne peut pas. Les retours sont interdits.
Ah.
Donc on n'a pas le droit en fait d'essayer quelque chose en lingerie et de le retourner.
Et on fait comment?
Donc ce qui se passe, c'est le livreur attend devant la porte 10-15 minutes. La cliente, elle essaye ses produits, elle rend ce qu'elle veut pas, et donc quelque part on lui a livré entre guillemets que les produits qu'elle a conservés.
Alors l'été c'est bien, mais quand il fait moins 50 dans les rues, le pauvre livreur, il attend que madame se déshabille.
Il y a beaucoup d'appartements quand même.
Oui, d'accord, je présente.
Et il est bien équipé. Donc la politique de retour, on en a parlé avec l'Allemagne, gros pays de retour, donc là on est obligé d'avoir des adresses locales.
L'Allemagne, on paye en cash par exemple. Hein.
Cash on delivery,
ouais.
Très important. Vous faites pas de cash on delivery, vous coupez la moitié des consommateurs en Allemagne. Donc ça c'est extrêmement important. Et les taux de retour sont beaucoup plus importants. C'est-à-dire quasiment systématiquement une Allemande, elle va commander deux tailles. Et encore plus quand votre marque n'est pas connue. En Etam en France, c'est 95% de notoriété. On doit chaque année 60% des femmes s'équipent chez Etam, donc elles connaissent leur taille. En Allemagne, elles nous découvrent. Donc globalement entre un 90B et un 90C, elles vont commander les deux tailles et elles vont nous rendre celle qui va pas. Donc on est obligé quelque part d'agréger ça sur une adresse locale pour ensuite rapatrier le stock en France. Mais en Europe, on a de la chance parce que aux États-Unis, parce qu'il y a encore une assez grande porosité entre le marketplace Amazon, on va dire le leader de la marketplace, et tous les Facebook Connect, etc. Donc globalement, on arrive aujourd'hui à lier le commerce, les réseaux sociaux, l'unification du consommateur. Alors qu'en Chine, Tencent et Alibaba peuvent pas se parler. ils ont chacun leur mode de paiement, hein, Alipay et WeChat Pay. Et donc du coup, quand vous vous engagez votre communauté sur WeChat, qui est votre plus grosse communauté finalement, ce qui est quasiment pas de mail, votre communauté sur WeChat, vous ne pouvez pas faire de lien avec Alibaba avec Tmall.
Bien sûr.
Donc du coup, il y a des passerelles qui sont très compliquées avec des screenshots à copier, etc. Donc en Europe, on a encore. Mais demain, si tout le monde, si Facebook se met à faire du commerce et Amazon dit bah dans ce cas-là, il n'y a plus de Facebook avec chez nous, ceux qui vont vendre sur Amazon, ils vont se retrouver avec des complexités.
Très intéressant.
Et en fonction des territoires et des poids de chacun des marketplaces.
Un mot juste, Marc Pontet à Sandia, il y a vraiment autant de pays que de modes de paiement. On parlait du cash en Allemagne, il y a des pays qui vont prendre que la Master, d'autres de la Visa, d'autres du PayPal, d'autres du prélèvement.
Alipay
aussi, bien sûr.
Nous, on a développé, on a des contrats pour une centaine de moyens de paiement différents. Et on a parmi nos grands clients Nike. Nike, on traite leur e-commerce pour une trentaine de pays. Et on utilise à peu près effectivement une centaine de moyens de paiement différents. Et par exemple, on a très vite compris que en Turquie, avec les moyens de paiement classiques, on n'avait aucune chance de réussir. Donc il fallait des moyens locaux et tout de suite les ventes se sont envolées.
Parcours du combattant donc pour les entreprises. Oui, Emmanuel.
Et rajouter là-dessus aussi toutes les différences de réglementation entre les pays, parce que vous avez sur beaucoup de produits spécifiques des réglementations qui sont différentes. Ne serait-ce que vous n'avez pas le même âge de la majorité, par exemple, dans tous les pays.
Tout juste, bien vu.
Il y a tout un tas de produits qui sont des produits alimentaires, des produits liés à l'alcool, les armes, etc., sur lesquels vous n'avez pas non plus les mêmes réglementations. Et puis, il faut aussi penser à se prémunir en matière de conflits juridiques. C'est-à-dire, en gros, quand on va vendre dans ces pays-là, qu'est-ce qui se passe quand il y a un conflit juridique? Comment on se prépare? Donc ça aussi, c'est des complexités supplémentaires.
Bon, allez, on se retrouve dans un instant. Donc oui, les plus de frontières dans le e-commerce, justement, jusqu'où, justement, voilà. Comment, redonner un petit peu d'ordre, comment fluidifier ce e-commerce transfrontalier. On va continuer dans un instant, toujours avec Jessica Del Piro, Marc Pontet, Laure Melchior, Emmanuel Le Chypre. À tout de suite.
L'écho s'éclaire sur BFM Business. Fabrice Lundy reçoit les décodeurs de l'écho.
Oui, alors on en parle, le commerce bousculé chaque jour avec son lot d'innovations, son lot d'annonces, plus de frontières pour le commerce physique, digital, tout ça s'entrechoque, se mêle bien sûr. Et puis voilà, le commerce tout simplement qui se joue de toutes les frontières physiques des pays. On parle du e-commerce transfrontalier, comment des boîtes peuvent aller conquérir des clientèles étrangères. On l'a vu, ça recouvre un certain nombre de difficultés, d'écueils, évidemment, bien sûr. Comment faire du e-commerce international une activité normale? Quelles sont les clés de la réussite pour un e-commerçant qui souhaiterait s'internationaliser? Il faut des ressources, il faut se donner le temps et surtout, il faut y aller. Voilà ce que nous disait donc Pedro Novo, directeur financement export de BPI France. On l'écoute et puis on revient vite.
Pour tout ça, il faut des moyens, il faut avoir l'ambition aussi de se poser un point GPS relativement loin et de mettre en face les ressources financières qui vont avec. Il faut bien avoir aussi conscience que si c'est un succès, et ça le sera, la vitesse va être un enjeu du quotidien. Et si on veut être rapide, grandir vite et être relativement agile, il faut avoir un panier de ressources adapté en face. Ça suppose des fonds propres, ouvrir son capital, trouver de la liquidité. Ça suppose des banquiers partenaires qui sachent gérer ces questions de transaction et vous accompagner en prêt avec des moyens à long terme. Et ça suppose des équipements et des outils de conseil, d'accompagnement et de financement que des institutions françaises mettent à disposition, dont la nôtre d'ailleurs. Et vous avez aujourd'hui énormément de moyens pour éponger le stress de l'internationalisation des e-commerçants. Donc il faut y aller.
Il faut y aller, nous dit Pedro Novo, directeur financement export de BPI France. Oui, il faut des ressources, justement, humaines, financières. Jessica Del Piro, directrice générale France de Med.com, combien de collaborateurs à Paris?
Alors, nous, on a une quarantaine de collaborateurs à Paris, environ 400 collaborateurs dans le groupe. Et au niveau des ressources, c'est un sujet qui est vraiment d'actualité, puisque nous, on est un groupe, au niveau du groupe, on a atteint un seuil de rentabilité. Pour autant, justement, pour cette accélération, on vient de faire une grosse levée de fonds il y a 2 mois, de 45 millions d'euros, justement pour accélérer à l'international, pour accélérer sur les showrooms, pour accélérer sur les développements technologiques, puisqu'il y a aussi des technologies qui vont aussi bouleverser notre secteur, comme l'AR, par exemple, Augmented Reality.
Oui,
réalité augmentée, pardon. Et donc tout ça est important. Donc les fonds, c'est important effectivement pour appuyer sur le champignon et accélérer. Et d'un point de vue humain, les talents, la bataille des talents, on la connaît dans le digital. En France, c'est important. Donc, aller chercher les meilleurs talents en leur montrant la vision, en leur donnant envie. Oui, donc c'est crucial.
Quel conseil vous donneriez-vous, Marc Pontet, à la tête d'Ascendia, cette co-entreprise de La Poste?
D'abord, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour les marques et les entreprises françaises. Parce que quand on regarde un peu la place de la France dans les achats des consommateurs mondiaux, je pense que c'est une place qui n'est pas encore à la hauteur du potentiel du pays. Si on regarde un peu les grands chiffres, on voit la Chine arrive largement en tête, ouais. Près de 40%, les États-Unis 20%. En France, on représente 3% des achats mondiaux sur les sites de e-commerce. Et 3%, c'est assez loin, par exemple, de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne, qui sont plutôt au-delà de 10%. Ah. Et structurellement, il n'y a pas de raison pour lesquelles les Français devraient être derrière. Donc, ça veut dire qu'il y a un vrai potentiel de croissance, mais ça veut dire aussi qu'il faut que les entreprises françaises aient vraiment foi en l'internationalisation.
Envie, voilà.
Et aujourd'hui, il y a encore... On a des exceptions autour de la table, mais il y a encore une forme de timidité. Et surtout, il n'y a pas la volonté d'y mettre effectivement les moyens, parce que pour faire d'international, il faut des équipes. Il faut des équipes, ce que je dis est basique, qui parlent anglais, ouais. Notamment. Ouais. Voilà, ça commence par ça. Et il faut y mettre un peu de l'argent, il faut prendre des risques.
Emmanuel Lechypre et Laurent Milchior de l'ETAM.
Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on atteint en quelque sorte le stade ultime de la concurrence de niveau mondial. C'est-à-dire qu'avant, on avait une concurrence qui était surtout sur les sites de production. Hein. On délocalisait pour aller produire pas cher. Et quand au niveau de la distribution, alors oui, vous aviez de la concurrence, mais qui était de la concurrence locale. Vous aviez les grandes enseignes françaises qui se faisaient de la concurrence, etc. Bon, mais là, vous êtes maintenant concurrencé par des gens qui peuvent être n'importe où dans le monde. Alors, il y a la double facette. C'est-à-dire qu'il y a cette idée qu'effectivement, quand vous êtes petit, vous avez quand même, grâce... au e-commerce, la possibilité d'adresser tout de suite un marché très gros. Quand vous avez 65 millions de consommateurs en France, que vous en avez plus de 500 millions à l'échelle européenne, tout de suite, vous prenez effectivement une dimension intéressante. En plus, il y a d'autres aspects qui sont intéressants dans cette internationalisation quand vous vendez un certain type de produit. C'est que vous avez une capacité à lisser les ventes sur l'année qui est quand même très intéressante. Il faut voir que le e-commerce, il est quand même très saisonnier. Hein. Si vous prenez en France, on a une très grosse partie des ventes qui se fait en fin d'année, à Noël. Or, si vous avez la possibilité d'accéder, par exemple, à tous les jours fériés du monde entier, à toutes les grosses séance entre guillemets de consommation, à toutes les grandes fêtes de consommation dans tous les pays du monde qui sont pas forcément au moment de Noël. Si vous vendez des maillots de bain dans l'hémisphère sud alors que vous habitez dans l'hémisphère nord et que vous vendez au moment où c'est pas les... Voilà. Donc ça a un intérêt aussi, mais songez que il y a les deux facettes, c'est-à-dire on s'ouvre à la fois à un marché mondial mais on est aussi concurrencé par des entreprises qui sont pas forcément des entreprises mondiales, mais des entreprises qui peuvent venir du monde entier. Ouais, et qui sont pas forcément des grosses entreprises. Et ça, c'est aussi quand même la nouveauté.
Ouais, et n'oubliez pas, il y a la fête des pères, ce dimanche, le 17 juin. Laurent Milchior, justement, il y a du potentiel.
Ça nous aidera pas beaucoup, la lingerie. Hein,
mais... Non, il y a du potentiel. En France, nous disait Marc Pontet, nous disait Emmanuel Lechy, mais... Il y a juste quand même deux boîtes qui ont envahi le monde, qui s'appellent Amazon ou Alibaba. Il y a de la place, justement, quand on est un site français, par exemple, pour aller essayer de concurrencer ces deux mastodontes.
Si on prend notre groupe, en fait, je vais répondre à ça et sur la pratique des ressources. Ouais. On est une entreprise familiale, on fait plus d'un milliard d'euros de chiffre d'affaires, on est obligé de voir à long terme. On est leader en France, on a 20% du marché de la lingerie avec nos deux marques principales. Donc en fait, notre extension, on a 700 magasins en France, plus de 700 magasins en France. Donc en fait, on peut plus se développer en France, la réalité. Donc on a un e-commerce qui est relativement performant en France par rapport aux autres acteurs qui ont ce maillage du territoire. Est-ce que demain il y aura moins de magasins? En tout cas, il y aura une cartographie un petit peu différente. C'est assez probable. Donc moi en 2009, j'ai repris la direction du groupe. J'ai dit je n'ouvrirai pas de magasin. Aujourd'hui, il y avait 300 magasins Etam Lingerie, il y en a toujours 300 magasins Etam Lingerie 10 ans plus tard qui sont agrandis, etc. Donc du coup, on est obligé de trouver de la croissance et trouver de la croissance, du coup, on est obligé de trouver l'international en magasin et en digital. Et là, on se retrouve contraint avec effectivement les Amazon, les Alibaba qui sont en face de
nous. Et comment on fait alors
nous en France, on a fait le choix de pas le faire pour avoir des ressources en interne, pour avoir suffisamment de ressources, que nous le digital c'est 70%. personnes quand même en interne. Si on était une start-up et qu'on prend le produit, etc., on serait 250 pour faire le chiffre d'affaires qu'on fait en ligne. Avec une problématique, c'est qu'on ouvre moins facilement de capital à cette population-là. Donc il faut que le top management s'implique énormément sur le digital pour que l'entreprise elle se transforme en digital. Ensuite, Amazon, on a fait le choix de pas y aller en France. Si on allait aux États-Unis et c'est un marché qu'on regarde, parce qu'on a un concurrent américain qui va un peu moins bien, et donc on pense qu'il y a des portes qui peuvent s'ouvrir, on sera obligé de passer par Amazon, comme on l'a fait en Allemagne avec Zalando. Mais on sera pas obligé d'y aller pour autant en Europe sur un consommateur différent sur lequel on est un challenger. Mais quand on est leader, je pense que ce qui compte, c'est des marques très différenciantes qui fait qu'on n'a pas besoin d'aller sur Amazon. En Chine, je termine, par contre, le e-commerce ne se fait que sur Alibaba, et ensuite vous avez un peu de JD pour l'électronique, et vous avez VIP et d'autres pour le discount. Donc là, nous, on a même fermé notre site de e-commerce normal pour ne faire que du Alibaba, du Tmall principalement.
Il y a un gros enjeu sur la donnée aussi, hein.
Parce que si vous donnez les clés du camion, c'est des données que vous captez en moins pour vous. Hein.
Surtout qu'on a parlé d'omnicanalité, donc du coup, là, on se coupe de l'omnicanalité.
Ouais. Oui, Jessica Delpirou, Marc Pontet, Amazon, alors, Alibaba, qu'est-ce qu'on fait face à ces géants?
Nous, aujourd'hui, on n'est ni sur Amazon, ni sur Alibaba, clairement.
Combien de temps vous n'y serez pas?
Et en fait, effectivement, on le regarde, c'est important de le regarder, ça ne nous fait pas tellement peur pour l'instant, puisque même si c'est des gros acteurs, nous, ce qu'on construit, c'est une marque. Donc encore une fois, on reste concentré sur notre objectif qui est de construire cette marque. Une fois que la marque sera solide, forte, elle commence à l'être, puisqu'on a des taux de notoriété qui commencent à être forts, on est apprécié, on est vraiment une marque que les consommateurs apprécient. Finalement, Amazon n'est qu'un moyen. Ce n'est qu'un moyen de distribution au même titre qu'un magasin ou que le site. Alors on privilégiera toujours notre site à nous parce qu'on peut y dire beaucoup plus de choses sur notre marque, mais néanmoins on aura beaucoup moins peur et on est moins exposé en étant une marque qu'un distributeur.
Marc Pontet, Ascendia.
Amazon, Alibaba,
la
règle du jeu est assez simple. Ouais. Prenez Alibaba. Alibaba est actionnaire de SingPost, qui est la poste de Singapour, l'une des plus efficaces d'Asie. Prenez Amazon. Amazon annonce partout qu'il est en train de construire son propre réseau de distribution. Ouais. Donc, et dans le même temps, Amazon, beaucoup, Alibaba un peu, sont nos clients. Donc, il faut s'habituer à vivre dans une situation où on voit deux géants qui sont à la fois nos clients et nos concurrents. Ah. Voilà. Donc, il faut le faire sans naïveté. Il faut le faire avec, on va dire, des conditions de rentabilité qui sont bonnes. Et bien entendu, nous, on est très heureux de travailler avec ses clients sans être naïf parce qu'on sait qu'ils seront ses concurrents. Avec notre offre d'eShop World, on a aussi fait le choix de proposer à des marques qui veulent avoir une autonomie stratégique par rapport à ces mastodontes, justement de les aider à développer leur e-commerce international en se passant de l'aide de ces grandes marketplaces.
Intéressant. Pour terminer, on parlait des magasins. Magasin Etam, l'expérience client. Juste un mot, vous lancez une expérience. C'est à partir de demain vendredi.
Vendredi, en sur France, les Champs-Élysées. En France, déployé à l'international.
Laurent Milchior.
C'est le. En fait, on essaie de reproduire l'expérience qu'on peut avoir aujourd'hui en digital dans le magasin. Parce que le magasin peut apporter autre chose. Par contre, on ne doit pas avoir plus de contraintes en magasin qu'on l'a en digital. Donc, il ne faut pas attendre en caisse. Donc, sur nos magasins aujourd'hui, on peut encaisser en mobilité sur la surface de vente. Et demain, on fait le try at home, donc essayer à la maison pour éviter de faire la queue en cabine ou d'avoir une expérience d'achat inconfortable en cabine. On va prendre l'autorisation de débit de votre carte bancaire sans la débiter. On va vous connaître parce que vous êtes dans notre base de données. Vous allez pouvoir prendre une dizaine d'articles chez vous. On vous imprime l'étiquette avec le bon sac. Vous pouvez essayer tranquillement. Vous avez une semaine pour nous rendre ce que vous ne voulez pas. Et c'est au moment où on réceptionne ce que vous ne voulez pas qu'on vous débite la différence. Donc c'est d'offrir une expérience sans couture à 360. Donc c'est demain sur les Champs-Élysées. Le GE carte bancaire français facilite pas les choses, mais on a trouvé des astuces pour pouvoir offrir ce service à nos consommateurs.
Bon, très bien. Merci à tous. C'était très intéressant sur tout ce qui se passe dans le commerce. Il y a Innover pour le commerce, vous le savez aussi, le week-end avec Karine Vergnol, avec Rodolphe Bonas, bien sûr, le samedi et le dimanche. Toujours passionnant. Le dimanche matin, notamment, je regarde le dimanche matin, moi. Merci Jessica Delpirou, la directrice générale France de Med.com, Marc Pontet, directeur général d'Ascendia, qui est une co-entreprise de la Poste française et de Swiss Post, Laurent Milchior, co-gérant d'Etam, Emmanuel Le Chypre, éditorialiste économique à BFM Business. C'est fini pour les décodeurs de l'écho. On essaie de revenir le plus vite possible.
Les décodeurs de l'écho sur BFM Business.